originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour.
Sam Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Emmanuel Barré.
Oui, bonjour.
Et Charles Romain qui peut gagner. Et nos invités sont Isabelle Carré et Patrick Chenet. Ravi de vous accueillir, j'espère que vous allez bien, Isabelle,
très bien.
Patrick aussi.
Je suis très content d'être là.
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui vous arrive, Patrick ? Je ne vous sens pas concerné.
Il allait voter Fillon, il est vénère.
Non mais vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant de ce qui se passe.
Non, mais mode avion, c'est bon, voilà.
Ah, d'accord.
Il paraît que François Fillon aussi vient de se mettre en mode avion.
Isabelle Carré et Patrick Chenet sont au Théâtre du Rond-Point à partir de ce soir.
Oui, c'est notre première,
chaud.
On n'a même pas peur.
Et ça s'appelle « Honneur à notre élu ». J'ai peur que Tom Villa n'ait pas bien compris pourquoi Isabelle et Patrick étaient nos amis.
À chaque fois, vous m'enfoncez, Nagui, c'est pas très sympa. Mais si, j'ai compris. Parce qu'ils viennent nous parler donc de la pièce, comme vous venez de dire, « Honneur à notre élu », et nous prouver qu'on peut se divertir sur la politique ailleurs que sur BFM TV. Et ça, c'est pas mal. « Honneur à notre élu », donc c'est joué au Théâtre du Rond-Point, un horaire assez inhabituel, 21h. Au rond-point, 21h, d'habitude ça se joue à 18h, donc là 21h c'est une after au rond-point, hein, là c'est clairement très très tard. Alors donc, honneur à notre élu, c'est avec Isabelle Carré, une de nos plus grandes comédiennes françaises,
clairement.
Et Patrick Chenet, une de nos plus grandes moustaches françaises,
entre
Jean Rochefort et Nadine Morano. Je précise aussi...
Dites rien Patrick. Faut laisser la bave du crapaud.
Oui, c'est pas un crapaud, j'adore Patrick. Alors je précise...
Vive, hein.
Merci Patrick. Je précise honneur à notre élu avec un E, parce que oui, les femmes sont aussi des élus, n'en déplaise à certains députés. Moi, j'ai aucun souci avec les femmes au pouvoir, enfin, juste en mai, ça me ferait chier, mais je pense sincèrement qu'une femme est tout à fait capable d'être aussi incapable qu'un homme. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les hommes qui s'en prennent plein la gueule. Alors, allez-y, prenez le pouvoir, mesdames. Après, il faut que tout le monde soit ouvert d'esprit. Par exemple, aux États-Unis, entre une femme et un raciste, ils ont préféré prendre un raciste. Voilà. Nous, là où on a de la chance en France, c'est que c'est la même personne. Donc ça, c'est le gros avantage. Le pitch de la pièce, Isabelle Carré, donc vous jouez notre élu, maire en exercice d'une petite ville portuaire connue.
Maire M-A-I-R-E, donc.
Bah oui, bien sûr.
Oui, évidemment, en exercice.
Oui. Connu, on parle que de politique, là, dans cette émission.
Absolument.
Donc connu et élu pour ses actions irréprochables et son modèle d'honnêteté. Donc déjà, ça cache un truc.
Mais hein. Si, ça existe.
Ouais, peut-être.
Fiction.
Et vous, Patrick, donc vous jouez l'opposant, rétamé aux élections 3 ans plus tôt par notre élu. Et qui guette les prochaines élections pour sortir le gros dossier sur sa rivale. Alors je le précise, c'est une pièce où toute ressemblance avec une actualité récente, avec des personnages existantes ou ayant existé, ou avec des sourcils proéminents est purement fortuite, enfin quand même. Soit c'est vous qui avez balancé au canard, soit l'auteur de la pièce, Marie-Anne Daye, avait des infos qu'on n'avait pas. Je sais pas, on sait si elle est copine avec des femmes au foyer triste à mourir avec un accent britannique ou pas du tout. Non, on sait pas du tout. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez François Fillon en fille, Sarkozy en normal et les pièces de théâtre au Théâtre du Rond-Point, et bien notre élu, et honneur à notre élu, est fait pour vous.
Absolument, merci Tom Villa. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Isabelle Carré et Patrick Chenet, moi je voudrais juste savoir, avant que nous parlions du fond et de la forme de cette pièce, dans quel état d'esprit on est le matin à 11h08 et qu'à 21h on se retrouvera au Théâtre du Rond-Point sur scène. Isabelle ?
On est heureux. On est heureux de jouer au Rond-Point. En plus, on a déjà joué la pièce à Angers et ça s'est très très bien passé.
Donc zéro pression, zéro trac.
Oh bah si, dire, quand même un peu, mais...
D'abord, tu vas dire, je suis heureuse.
Parce que toi, tu n'es pas heureux. Il n'est pas heureux.
Non, mais je... Oui, non, je...
Un peu moins enthousiaste.
Un petit peu moins heureux.
Non, je suis content. J'ai pas de pression ni de trac particulier parce que c'est, vous savez, c'est l'esprit de troupe. On est 9. Alors il y a 2 personnages principaux qui s'affrontent et qui se complètent et qui se complexifient aussi parce que ce sont des rapports très complexes. Et puis il y a aussi le reste de la troupe.
Alors que l'on
donc,
va,
c'est une
que l'on va
c'est...
que l'on va citer. Vous
ah
avez
oui,
raison parce que
bien.
Vous n'êtes pas
Christelle
vous
Tuel.
N'êtes pas ah bah écoutez Jean-Charles Cliché, Romain Cotard, Yann Amanecker, j'espère que je prononce bien.
Jean-Paul Muel,
Chantal Neuwirth, Agnès Pontier et Christelle Tuel. Voilà pour les 9. Et il y a des enfants aussi. Il y a un chœur. Enfin il y a
et
du.
Et c'est une mise en scène de Frédéric Bellier-Garcia.
Exactement. Cette pièce vous l'avez déjà interprétée. Alors quand on voit l'actualité politique, et avec tous ces rebondissements dont on va parler peut-être en cours d'émission,
on ne peut pas, et comme l'a dit Tom, on ne peut pas faire de parallèle entre cette histoire d'une maire élue maire d'une ville qui est élue et réélue et régulièrement réélue.
Depuis 20 ans.
Voilà, depuis 20 ans, et tous les 4 ans, c'est des élections ont lieu, et tous les 4 ans, elle gagne, et elle semble être une femme qui gère la ville avec honnêteté, avec probité, qui s'intéresse aux différents
gens,
dossiers.
Qui n'est pas dans voilà, son ambition personnelle, qui est vraiment irréprochable.
C'est ça.
Mais on lui met quand même, l'opposant lui-même, lui met quand même quelques affaires dans les mains, les pattes.
Et des affaires montées de toutes pièces, on a l'impression.
Oui,
quand
des
même.
Affaires privées.
Il y a une histoire de terrain dans un de ses collaborateurs qui va évidemment l'éclabousser.
Il y a une histoire de holding familial, il y a des parents qui débarquent.
Des parents qui débarquent, qui sont envoyés par l'opposant pour essayer de la plomber.
Alors c'est pour
et
montrer
quoi. Ça marche pas et ça marche en même temps. Enfin, c'est pour montrer que
c'est
quoi.
C'est pour montrer qu'on est prêt à tout pour avoir le pouvoir. C'est que.
C'est-à-dire que le. C'est pas une pièce extrêmement réaliste. C'est une pièce qui a un écho sur ce qui se passe en ce moment.
Exact.
Et en même temps, c'est un type qui est dans l'opposition, dont le seul souci, le seul but dans la vie est de prendre le pouvoir, de prendre la place de notre élu.
Mais c'est no good.
Temps,
c'est
vous savez, good, je quoi. Crois il qu'il y a une espèce de relation amour-haine avec son rival en politique.
Il est fasciné par
et comme le rival,
il y a même une admiration.
Comme son rival en politique est joué par notre élu, qui est joué par Isabelle Carré. Donc, s'ajoute une dimension d'ensorcellement, peut-être même érotique, quelque chose de pas clair qui fait que l'opposant que je joue est contradictoire dans ses pulsions, ses envies. C'est-à-dire qu'il veut le pouvoir, en même temps, il ne veut pas se débarrasser de notre élu qu'il admire, qu'il est un petit peu ensorcelé par cette femme. Donc tout ça devient compliqué, tout ça devient du théâtre, parce que ce sont des gens complexes, et c'est pas simplement une pièce réaliste qui expose des faits, etc. C'est une pièce un peu claudelienne,
shakespearienne. Oui, mais qui résonne, fonte, en fait.
Mais qui résonne, en tout cas.
Et qui interroge notre propension à aller aussi vers ce qui pourrait nous détruire.
C'est-à-dire ?
Donc aujourd'hui, effectivement, ça résonne. C'est-à-dire que, bah oui, c'est comme une sorte de mise en garde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. Et aussi, ça interroge ce qui nous fascine chez un dirigeant et ce qui nous rebute. En fait, c'est un monde qui est fait vraiment de contradictions et d'ambivalences. Effectivement, les militants ont cette admiration comme ça. Il y a un monde d'abnégation. C'est vrai que ces élus, ils se sacrifient aussi. Mmh. En même temps, ils ont cette image d'eux-mêmes, parfois, cet orgueil incroyable.
Alors, il y a un côté
c'est que des ambivalences.
Il y a un côté secte aussi, un tout petit peu, dans les militants qui poussent comme
c'est
ça leur leader, qui ne comprennent pas comment on peut ne pas haïr l'autre, puisque il y a aussi des clans qui sont là, les militants veulent se détester, et puis ceux qui sont en haut finalement jouent la tolérance, l'ouverture d'esprit. La pièce s'ouvre de mémoire sur une phrase. Mais c'est bien d'avoir les perdants devant nous, d'avoir les visages, puisque c'est à l'annonce des résultats que la pièce commence. Donc c'est bien aussi de voir quels sont ces êtres humains, parce qu'il faut respecter nos adversaires. Mmh. Un discours tenu par Eva dans
tu fais écho au discours d'Emmanuel Macron.
Non, mais c'est ça, moi j'ai quand même eu un trou à un moment donné, parce que je pensais tellement en fait aux résonances qu'il y avait par rapport à ce qu'on vit tous les jours en ce moment. Je pensais aux gens dans la salle, et du coup je pensais tellement à eux et à leur réaction en entendant ce texte-là que j'en ai eu un trou.
Il y a un écho incroyable. Moi je commence la pièce en parlant de mon opposant politique, en disant il faudra qu'elle ait honte, il faudra qu'elle renonce d'elle-même, il faudra qu'elle. Que nous simplement l'accompagnons dans cet effondrement qu'elle aura provoqué. Enfin, sur le public d'Angers, il y avait un écho absolument incroyable sur l'actualité politique du moment, réelle, et qui est toujours l'actualité.
Ouais, il y a un écho sans trop coller à l'actualité, c'est ça qui est intelligent.
Oui, c'est
ça. Ça reste une fable et c'est intemporel.
C'est une pièce qui a été écrite il y a 4-5 ans. Hein, donc,
Et puis, ce qui est amusant, c'est que c'est une fable tragicomique qui interroge aussi l'impossibilité d'être propre dans le domaine politique. Mmh. Parce que votre personnage, notre élu, est finalement soupçonnée ou inquiétante parce qu'elle est droite, parce qu'elle est honnête, comme si
c'était... C'est presque trop.
C'est trop. Et ça questionne autant que la culpabilité d'un homme politique, en fait, dans la réalité. Mais c'est vrai que les échos, ils sont formidables. L'homme providentiel, quand on voit les meetings en ce moment, on voit le candidat, quel qu'il soit, qui traverse la foule, qui serre des mains, et la mer s'ouvre sous ses pas. On a, au début de cette pièce-là, ce rapport à l'élu.
Il y a un côté Dieu vivant.
Ça devient des figures, ça devient plus des êtres êtres humains.
Ouais, et on voit les militants massés autour qui regardent avec un regard d'amour le candidat parce que plein d'espoir pour l'avenir et aussi parce que il y a une proximité qui fait qu'on caresse le pouvoir, on s'approche du pouvoir et ça c'est fascinant pour tout le monde.
Il y a une proximité, une opacité en fait, et c'est vraiment ça qu'interroge aussi Marine Diaye, le secret. Elle a vraiment ce goût du secret dans toute sa littérature. Elle explore ça. La chef, le roman d'une chef qui vient de sortir, parlait de ça aussi. Quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler, qui refuse de se dévoiler.
Et votre personnage préfère ne rien dire,
ne rien faire pour ne pas rentrer dans cette arène-là.
La diffamation est préférable.
La trahison aussi, la déception. Enfin, il y a beaucoup de sentiments par lesquels passe votre personnage, alors que elle est étrangement, j'ai envie de dire, honnête, intègre, calme.
Oui, mais on lui balance des affaires dans les pattes et elle est éclaboussée, elle n'est pas à l'abri de ça non plus. Donc c'est pour ça
mais
c'est
elle très, très ambigu, elle ne s'énerve même pas compliqué. Elle ne s'énerve même pas, elle ne se défend même pas de cette injustice.
Elle estime que si elle rentre dans l'arène, c'est déjà faire preuve qu'elle est coupable. Si réellement elle est innocente, elle n'a pas à se défendre.
Et pourquoi une ville portuaire ? Pourquoi est-elle maire d'une ville portuaire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Qu'est-ce que vous y avez lu ? Qu'est-ce que le metteur en scène y voit ?
Parce qu'il y a des bateaux.
Ok. Mais pourquoi pas ? Pourquoi une ville, pas une ville au cœur des terres ? Est-ce qu'il y a un rapport à l'autre, à la venue de...
Oui. Non, mais je pense que
Marine Diaye, c'est jamais par hasard, en fait.
C'est surtout que ça soit une petite ville, en fait. Et en fait, elle a écrit cette pièce donc il y a 3 ans, au moment des élections municipales. Mais on a le sentiment que ça pourrait très bien être des élus au niveau national, en fin de compte. Parce qu'il y a cet entourage et cette figure, comme on disait, admiration.
C'est malin de l'avoir fait au niveau d'une ville, comme ça, toute ressemblance avec une personne existante. Voilà. On peut l'éviter. La seule connexion que l'on peut y retrouver, c'est la notion familiale, intérêt personnel, les holdings familiales qui se retrouvent avec des terrains qui sont, constructibles, ou en tout cas des intérêts financiers familiaux viennent au milieu de cette histoire, et surtout des histoires familiales, quelles qu'elles soient, servent à salir ou à déstabiliser une ambiance politique. Donc c'est juste peut-être là où il y a un écho nouveau dans ce qui se passe dans notre actualité politique. Ce sont plus des affaires politiques, ce sont plus des affaires militaires ou internationales, mais des problèmes personnels et familiaux.
Pour attaquer un élu,
c'est là où elle est avant-gardiste. Si elle a été écrite il y a 3-4 ans.
C'est-à-dire que c'est ça. Pour attaquer un élu, en fait, il ne faut pas l'attaquer sur ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais sur ce qu'il cache.
D'ailleurs, on ne sait pas votre bord politique, notre élu. On ne connaît pas.
Ni l'élu, ni l'opposant.
On n'identifie pas.
C'est pas le propos de la pièce.
Et justement, c'est pas le contenu qui compte, en fait.
On ne parle pas de programme.
Il
n'y a pas de programme, il y a la personne.
C'est très actuel. Il parle un petit peu de son programme, quand même. Il dit que...
Alors, j'ai raté ça, alors.
Il dit qu'il fera quelque chose avec le port.
Ah oui.
Pour faire le lieu le plus attrayant de la ville.
Il continuera ce que j'ai commencé.
Tous les gens diront, c'est lui l'ancien opposant qui a fait ça, je jubile.
Oui, mais enfin, de la même manière que elle.
C'est-à-dire qu'elle arrange la ville. Avec la nouvelle. Pas nouvelle élue, mais la nouvelle.
Peut-être parce que la différence au niveau d'une ville.
La nouvelle défaite. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va lui élever une statue.
Lui rendre hommage.
Étudier de près ce qu'elle aura fait. Parce qu'il est fasciné par ça. Je pense qu'il est un peu amoureux de ça. Il est un peu amoureux de son opposant.
Tu peux remarquer, Isabelle, il revient beaucoup sur la notion érotique et l'amour. Hein,
oui, absolument. Avec mes chaussures. Je suis si bien chaussée. Je suis si bien,
ces merveilleux petits pieds. Magnifiquement chaussé.
Patrick, vous êtes à l'antenne là, donc si vous voulez dire un truc à Isabelle.
Je cite Marine Diaye, je cite un exécutant.
Mais c'est vrai que son écriture, il faut le dire, est très poétique, très sensuelle.
Et très érotique.
Également.
Et le texte est âpre, hein, quand même. Ça ne doit pas être simple.
Et il y a des pavés
sur scène.
Il y a des pavés aussi.
Ce qui est génial, c'est que justement, ce qui est génial, à la fois on peut s'en réjouir et en avoir peur aussi, mais cette actualité crée des portes d'entrée à chaque scène, en fait. Donc même si c'est une écriture qui est quand même très subtile.
Ça fait du bruit ce que vous faites, Patrick, avec le micro là. Si vous enfoncez, si vous frottez votre barbe sur le micro, ça fait du bruit à l'antenne. Je préviens les personnes.
C'est une barbe d'un jour. Hein.
Oui, c'est une
barbe surase.
Isabelle.
Donc finissez votre phrase, Isabelle. Pardon.
C'était bien.
Ta langue était là.
Mais c'était érotique.
Mais quel voyou. Non, mais en plus c'est incroyable parce que Marine Diaye, c'est quand même la seule auteure de son vivant qui est entrée au répertoire de la Comédie Française. Elle a eu le prix Goncourt pour
Papa doit manger, c'était une pièce magnifique.
Papa doit manger, c'était merveilleux. Elle a eu le Goncourt avec 3 femmes puissantes. Elle a une écriture d'une efficacité incroyable. Elle est, jouer du Marine Diaye aujourd'hui, c'est.
Il est dur à apprendre pour vous le. le texte, tellement justement il y a des monologues assez imposants.
Oui, oui, oui.
Merci. C'est au Théâtre du Rond-Point.
Je réponds aux questions.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Elle est, la réponse était aussi claire que la question. Honneur à notre élu.
Mais j'y arrive.
C'est rassurant
avec
pour ceux qui iront ce soir.
Mais oui.
Mais c'était beaucoup plus impressionnant que ce ne l'était en réalité. La difficulté me paraissait...
Pardon, j'ai pas...
Alors, j'ai recommencé. J'ai essayé de simplifier.
Pour c'est pour toi, Nagui.
Ouais, mettez-nous un niveau enfant de 12 ans.
Non, simplement, j'avais peur du texte, de la mémoire, parce que c'est vrai que c'est des grands monologues. Et en fait, c'est difficile, mais pas autant que je ne me l'imaginais.
Mmh. Ouais, là, ça va.
Ça va.
Mais vous réécoutez votre phrase.
C'était mieux aussi.
Honneur à notre élu. C'est donc à partir de ce soir jusqu'au 26 mars, incarné par Isabelle Carré, Patrick Chenet, entre autres, et avec un long casting que j'aurai le plaisir de rappeler tout à l'heure. Vos oreilles ont sifflé de bonheur quand il a annoncé la venue d'Isabelle et de Patrick.
Et oui, et Isabelle, quand je pense à vous, je pense à la petite voleuse avec Charlotte Gainsbourg. On écoute un son.
Vous avez qu'à me retirer de l'école. Vous avez qu'à me laisser travailler.
Travailler où? Pour faire quoi?
À la crèmerie avec tonton Rouleau.
La crèmerie, on pourrait croire. T'as vu la bouille du crémier?
Bah pourquoi tu t'es mariée avec alors?
Parce que je croyais qu'un commerçant ça gagne bien. Si j'avais su. C'est ça, fais-nous la gueule. Nous fait rien que des conneries, en plus ça fait la gueule. Elle nous pique des sous aussi en plein dans le porte-monnaie. Et tu sais pour faire quoi? Pour aller au cinéma, voir le bal de sirène. Des filles qui nagent avec des plumes dans le cul, des piscines, des jets d'eau, des conneries quoi.
Ouais, tu parles, mais t'y connais rien. C'était une opérette dans les milieux riches, c'était beau, il y avait plein de chansons dans ce film.
Un extrait donc de La Petite Voleuse avec Charlotte Gainsbourg, de Claude Miller. Je crois que c'est un film qui vous a beaucoup touché justement, lorsqu'on demande à ce personnage pourquoi allez-vous au cinéma.
Pour qu'on me rencontre.
Ouais, pour qu'on me rencontre. Et ça, c'est une partie de vous aussi, Isabelle Carré, ce côté...
Oui, en fait, j'ai découvert le cinéma quand j'étais adolescente et c'était comme dans La Rose pourpre du Caire, en fait. Ça me permettait de rentrer dans un autre monde et de rencontrer d'autres possibilités de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression... Je rencontre mieux les gens en fait sur un plateau ou de cinéma ou de théâtre que dans la vie où je suis un peu timide et rougissante très rapidement. J'ai toujours trouvé plus facile de rencontrer les gens par le travail en fait, en équipe. Donc je fais du cinéma pour qu'on me rencontre.
Et comme Charlotte Gainsbourg, est-ce que vous dites facilement à ceux avec lesquels vous aimeriez travailler que vous aimeriez travailler avec eux?
Ah non, ça je l'ai fait une fois, ça a été une catastrophe.
Avec qui?
C'était à Sayas.
Et j'ai Olivia Sayas.
Oui, et j'ai c'est moi qui avais organisé, enfin pas par mon agent, et ça a duré un peu moins de 3/4 d'heure. J'ai regardé mes chaussures pendant tout le. J'ai fini par lui dire que en plus aujourd'hui c'est mon anniversaire.
Non mais non.
Ah oui, c'était
ridicule.
Ah oui, t'as pas travaillé avec lui, seulement ça s'est arrêté
jamais,
là.
Non, jamais, ça s'est arrêté là.
En tout cas, le parallèle que je trouvais joli avec Charlotte Gainsbourg, c'est que je trouve que vous êtes aussi comme elle, ce côté très fragile à l'image, et en même temps, ce côté très fort, et je me dis, et j'ai hâte de venir voir notre élu, honneur à notre élu, parce que c'est un personnage justement qui est ambivalent de ce point de vue, et je trouve que vous n'avez pas à votre pareil pour incarner ce genre de rôle.
J'avais peur de ne pas avoir assez d'autorité, effectivement, parce que c'est une figure dont tout le monde dit qu'elle est tellement parfaite. C'est plus facile d'interpréter, Les Émotifs Anonymes, ouais. Quelqu'un qui bafouille et qui est maladroit. C'est beaucoup plus facile à interpréter que quelqu'un de tellement parfait.
Mais je doute pas.
C'est trop proche de la réalité, c'est pour ça.
Et quand je pense à vous, Patrick, je pense au souper, cette pièce.
Moi,
c'est
vous,
oui,
si vous saviez.
C'est souvent.
Bien plus que vous ne pouvez le soupçonner, ouais. Patrick.
Ouais. Quand vous mettez vos petites chaussures rouges, par exemple.
J'ai des pensées érotiques, cette pièce de théâtre où vous endossez le costume de Fouché face à vous, Nils Arestrup, ouais. Qui incarne. Téhéran.
C'était formidable.
C'était une joute verbale formidable. Incroyable, le temps d'un dîner entre deux hommes qui se haïssent. Et là, on a encore...
Et qui s'admirent.
Et qui s'admirent. Et même chose, on a encore ce parallèle dans la pièce de Marine Diaye. Comme si...
Et puis c'est de la politique aussi.
C'est hein. Du haut, voilà, vous collez à la peau.
Je préside le gouvernement provisoire. Eh bien, faites en sorte que le roi revienne aux Tuileries. Les Jacobins sont à la botte. La République a de porte. Vous ne m'intimidez pas. Il faut vous décider, Fouché, parce que nous n'avons plus que quelques heures. Et pour moi, la restauration...
Ne me bousculez pas, je sais. Vous ne voyez que les bonbons, vous l'entendez? Que les bonbons.
Les hommes comme nous, se devraient se contenter du mariage politique. C'est tellement plus passionnel.
Le... Oui, Patrick, pardon.
Non, rien.
Non. Le souper, donc c'était un triomphe au théâtre, et c'est un rôle, je crois, qui vous a demandé de vous plonger dans tout un tas de lectures, et vous avez ce parallèle-là avec Isabelle Carré, qui lit beaucoup, qui prépare beaucoup ses rôles en lisant, oui, en se renseignant.
Oui, c'est-à-dire que ça permet de mettre un peu les mains dans le cambouis, oui, de se concentrer sur ce qu'on doit faire. Mais je suis assez organique et instinctif. Mais simplement, Fouché était un personnage tellement incroyable et passionnant et complexe et bizarre et décalé et fou. Et voilà, simplement, vous savez, c'est le monstre politique qui roule pour eux. Mm-hmm. C'est leur carrière avant tout, c'est leur place. En même temps, comme ce sont des monstres politiques et des grands professionnels, on va dire, ils roulent aussi pour l'intérêt général. C'est-à-dire que se servant eux-mêmes, ils servent l'intérêt général. C'était ça l'idée, mm-hmm, de Fouché et de
Talleyrand.
De Talleyrand.
Vous pensez que ça existe encore, ça, des,
ben oui, c'est pareil. Oui.
Des personnes qui ne se soucient moins finalement du bien-être de la communauté et qui pensent d'abord à leur...
Non, c'est ce que je viens de dire.
Alors, oui, oui. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que historiquement, ça a toujours été le cas.
C'est associé, en fait. C'est associé.
C'est vraiment la lutte pour le pouvoir. C'est un peu. C'est là où on rejoint la pièce.
Non, je sais pas. La lutte pour le pouvoir. Général de Gaulle faisait le bien. Pensait au bien commun. Pays, à libérer le pays, pas d'intérêt personnel. Enfin, je pense qu'il y a une génération.
Pas d'intérêt personnel. Si, le pouvoir, il l'a eu. Il a fait.
Pas des fins personnelles.
Des fins personnelles. Le pouvoir est une fin personnelle en soi.
D'accord.
Avoir le pouvoir, simplement détenir le pouvoir et s'en servir pour faire une certaine politique qui serve l'intérêt général.
Non, mais je pensais notamment à l'histoire de la holding.
Je pense qu'à l'époque, pour revenir sur Fouché, il y avait aussi des intérêts financiers. Mmh. C'est-à-dire que Fouché était vraiment l'homme le plus riche de France. C'est-à-dire qu'il s'en mettait plein les fouilles aussi. Et là, on est loin du compte. Enfin, c'est petit bras, quoi. Petit bras par rapport à ses grands ancêtres.
Et je crois que c'est une lecture de Stéphane Zweig, en fait, qui vous a beaucoup orienté sur le personnage de Fouché dans la biographie qu'il lui a consacrée.
Oui, parce que Stéphane Zweig est un grand écrivain et par rapport aux autres biographies qui étaient intéressantes, qui étaient très détaillées de tous les historiens, il y avait le souffle du grand créateur, mm-hmm, du grand écrivain qui est incomparable. Quoi. Et on est vraiment... On était avec Fouché, on sentait Fouché par tous ses pores en lisant le livre. Ouais.
Et donc, si vous aimez Stéphane Zweig, il faut aller voir Le Monde d'hier, au Théâtre des Mathurins en ce moment avec Jérôme Kircher.
Et si vous aimez Zweig, il y a un inédit qui vient de sortir, c'est Tolstoï. Il avait écrit ça en 1939 et c'est un bouquin qui avait été mis sur la liste d'Otto du nom d'un général allemand et interdit pendant l'occupation. Problème. Et il déclare sa flamme à Tolstoï. Et quand on sait comment Zweig sait sonder l'âme humaine et comment il sait raconter les histoires, je crois que c'est édité chez Buchet-Chastel. Voilà.
Et si vous aimez le PSG, je joue ce soir à Niort.
On peut aimer les deux, hein.
À 18h30.
Mais Tolstoï et le PSG.
Je rappelle que le dernier Picsou Magazine vient de sortir en cas.
Oh, mais chiant.
Nous parlons de cette pièce qui sera jouée ce soir, à partir de ce soir au Théâtre du Rond-Point, et ce jusqu'à la fin du mois de mars. Et quoi qu'il arrive, c'est le mois de mars au Théâtre du Rond-Point. Point. Il est hors de question de durer.
Continuer d'avril en mai.
Il y a une tournée après.
Et après, il y a une tournée prévue.
D'accord, oui. Très bien.
À Aix, Lyon, Nantes, je crois.
Parfait. Sacrée tournée.
Ça s'appelle Honneur.
Ignore.
Ça s'appelle Honneur à notre élu. Je serais curieux de voir les représentations qu'il y aura avant et après ou entre les deux tours, par exemple, parce que tout va résonner, parce qu'il va se passer encore plein de choses dans l'actualité, mais tout va résonner d'une manière totalement différente et fortement intelligente. C'est au Théâtre du Rond-Point. Honneur à notre élu. Maintenant, horreur. Voici Pierre-Emmanuel Barret.
Salut Nagui, salut tout le monde, attendez, j'ai une blague, est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui descend d'une montagne sur une mobylette en mangeant de la bouillabaisse? Non? Eh ben moi non plus, mais on s'en fout! C'est une blague pour les fans de Macron. Ben les mecs qui vont voter pour un candidat sans programme, je suis sûr qu'ils sont capables de rigoler une blague sans chute. Alors, vous allez dire que je suis mauvaise langue, hein, il doit présenter son programme demain Macron, et qu'est-ce que je devrais faire? Hein, je devrais applaudir? Putain, ça fait 4 mois qu'il est candidat, il sort son programme que maintenant. Et si je suis avec une meuf et qu'elle met 4 mois à me montrer sa chatte, faut pas qu'elle s'étonne si elle me surprend dans le cul de sa mère. Hein. D'ailleurs,
oh,
si ça se trouve, à l'origine, Macron, il voulait se taper la fille de Brigitte.
Non,
hein, non, non, mais on est tous d'accord. On On est tous d'accord, la logique, c'est d'abord de rédiger un programme et après, s'il est bien, tu te présentes aux élections pour le défendre. Ça donne quoi, Macron, à la piscine?
Oh non, j'ai oublié mon maillot de bain à la maison. Tant pis, je vais me baigner tout habillé. Oh non, j'ai oublié de faire caca avant de me baigner. Tant pis.
Non, et c'est pas 500 signatures d'élus qu'il faudrait pour être candidat à la présidentielle. C'est 499 signatures de psychiatres qui attestent que t'es pas mégalo et une signature du maître nageur qui atteste que c'est pas toi qui a bouché l'évacuation du petit bassin. Le seul candidat possible, ce sera un bout de bois allergique au chlore. Pour l'instant, la seule proposition de Macron, c'est culpabiliser les chômeurs en disant l'emploi, c'est la dignité, et en prenant le retour au travail. Mais va sucer Pierre Gattaz. Eh, la dignité, c'est quand t'es pas Emmanuel Macron, c'est tout, hein. Parce que c'est sûr, c'est quand même vachement plus facile de retourner au travail quand ton taf, c'est de te faire servir des cafés dans un bureau chez Rothschild ou à Bercy. Eh, le mec, il a quand même dit, un chômeur pourra refuser un emploi, mais pas deux, hein. Ça va se passer comment? Oui, désolé Jean-Michel, mais pour une France en marche, tu es obligé d'accepter ce job de laveur d'urinoir à 850 km de chez toi. Oui, je sais que tu es manchot Jean-Michel, mais pour une France en marche, il faut des bouches pleines de pisse. Eh, en vrai, il va faire quoi Macron s'ils sont pas d'accord, les chômeurs, il va les forcer? Putain, ils sont 12 millions, et même s'il a pris l'option Krav Maga Alena, il va se faire plier Manu.
Au secours, je me fais attaquer par des chômeurs, j'ai peur. Oh non, j'ai fait pipi dans mon caca de tout à l'heure.
Oh, non. Et puis c'est pas comme s'il pouvait compter sur sa bande pour le protéger Emmanuel. Ses derniers soutiens, c'est Bayrou et Cohn-Bendit. Et quand les chômeurs vont les voir arriver, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces tronches, on les a déjà tabassés ceux-là, hein? Et d'ailleurs, d'où il la ramène Cohn-Bendit? Bendit, quelqu'un lui a demandé son avis? Ben non, mais parce que tout le monde s'en branle de son avis. Le mec, il s'est levé un matin, il s'est dit, tiens, si je soutenais Macron? Puis il s'est recouché parce que sa journée de taf était terminée. Il a rien fait depuis 68, Cohn-Bendit. Son dernier acte révolutionnaire, c'était une pétition parce qu'il n'y avait plus de cabillaud à la cantine du Parlement européen. On dirait qu'il a ramassé tous les pavés qu'il a achetés sur les CRS en 68 pour construire un mur infranchissable entre lui et l'utilité. On l'appelle encore Dany le Rouge, mais c'est juste parce qu'il a pris un coup de soleil aux Maldives le week-end dernier. Cohn-Bendit, quand il a décidé de soutenir Macron, il a sorti l'argument passe-partout. Il a dit Macron, c'est le seul capable de battre Marine Le Pen. Mais putain, qu'est-ce que vous avez tous avec cet argument de fin de race? Excusez-moi, hein, je bosse pas à la Sofresse, mais sauf erreur de ma part, si vous votez tous pour n'importe quel autre candidat, vous battez Le Pen. Si vous votez tous pour Jacques Cheminade, vous battez Le Pen. Si vous votez tous pour Philippe Poutou, vous battez Le Pen. Si vous votez tous pour François Fillon, vous êtes des cons. Hein. Et puis si ce que vous cherchez, c'est juste un fils de pute en costard capable de battre Le Pen, vous faites pas chier à aller voter, filez-moi une batte de baseball, un costard, et je vous libère votre dimanche 22 avril. De toute façon, je suis dispo, j'avais rien de prévu. Merci de m'avoir écouté.
La bande originale.
On est en plein dans l'idolâtrie des figures politiques, comme dans la pièce.
Hein. On y est. Hein. Oui, le verbe est un peu plus châtié dans votre pièce. Voilà. La poésie n'est pas exactement la même.
Et j'aimerais pas être la piscine de Pierre-Emmanuel.
Mais... Non.
Personne
n'aimerait être déjà Pierre-Emmanuel à la base.
Oh,
honneur.
Tu peux être dedans si tu veux.
Mais
j'ai rien dit, oh ça va.
Donc cette pièce, écoute bien ce que t'as dit. Même un mauvais psy pourrait l'expliquer. Mais tu l'as dit quand même. Honneur à notre élu, c'est ce soir au théâtre du Rond-Point, Isabelle Carré.
Ce sera coupé en montage.
Non, pas du tout, trop tard. Isabelle Carré et Patrick Chesnais sont nos invités. Justement, nous allons revisiter quelques années musicales de votre carrière avant d'accueillir Guillaume Tabar, qui est éditorialiste politique au Figaro et sur Radio Classique, et nous allons parler justement aussi de politique avec lui. Mais d'abord, en musique, dans les années 75-76, Isabelle Carré, écoutez. Scatterings of Africa, dans quelle ambiance vous étiez, Isabelle, cette musique-là, pour vous, évoque les années 75-76, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu plus tard, hein, cette musique. Mais
ah oui, elle est sortie en 82, en fait, donc ouais, c'est bien, voilà.
Vous étiez en avance. Je suis un peu nulle en date, un peu blonde de ce côté-là. Et en fait, voilà, c'est mon côté africaine blanche, comme Johnny Clegg, j'adore la danse africaine. Si vous, vous me laissez cette musique, je peux éventuellement vous faire une démo.
J'adore
oui, j'ai suivi des cours. J'ai été en fait au centre américain faire des cours.
Une section théâtre et danse, c'est ça les deux.
Danse africaine, ouais.
D'accord.
Et puis j'ai continué. Enfin après j'ai voulu faire du classique. Là j'ai fait un grand virage à 90 degrés. Mais depuis j'ai repris la danse africaine et voilà. Un ça peu porte, d'Afrique nous fait du bien.
Ça porte bien sûr. Et on en a tous heureusement en nous. Ça vous apporte quoi la danse, les cours de danse? Il y a une rigueur.
Il y aura écoute ça aussi ce que t'as dit.
On a tous en nous. Bah, regarde tes gènes, va voir Yves Copin et va voir les scientifiques. Et heureusement que nous avons des gènes africains en nous. Excusez-moi,
parce que la danse africaine,
je vais t'expliquer toutes ces phrases.
T'avais pas dit gènes, non, t'avais pas dit.
On en a tous en nous.
T'as dit, on a tous un peu d'Afrique en nous.
Ouais.
Okay. Okay.
Tu ne le sens pas quand tu entends Johnny Clegg.
Si. Ah bon, maintenant que vous le dites,
vous l'avez pas vu danser. Est-ce que justement il y a une école de la danse qui vous permet d'être en l'occurrence sur scène meilleure comédienne?
Bah oui, enfin en l'occurrence cette danse-là, c'est une danse qui est pas rigide, qui permet de lâcher beaucoup de tension et qui, oui, permet d'être mieux dans son corps sur scène et de mieux occuper l'espace. Non, c'est assez complémentaire.
Dans ces années 75-76, Patrick Chesnay écoutait un titre mais que j'adorais.
Myriad.
Et il faisait du hip-hop dessus, Patrick.
Je faisais du hula-hoop.
Ah, du hula-hoop.
C'est ça le déhanchement. Ça, quand vous écoutez cette musique, quand vous l'entendez, ça vous met dans un état de nostalgie, d'amour, oui, de tristesse
Il y a un peu de tout ça, parce que je suis devenu copain avec Myriad et il a chanté à divers événements qui ont marqué ma vie, dont certains pas toujours joyeux. Et c'est il l'a chanté magnifiquement devant moi à un certain moment. Et c'est une chanson que j'adore, que tout le monde adore d'ailleurs, et chantée extraordinairement par Myriad.
Oui. Ouais, qui est, en plus il la chante comme une espèce de déchirement et oui. De déclaration d'amour. Ouais.
Oui.
Très belle chanson. Dans ces années 70, mi-70, vous obtenez votre premier rôle au cinéma aux côtés de Jacques Villeray.
Et Pierre Richard, oui.
Avoir son premier rôle, j'imagine que c'est comme toutes les premières fois dans la vie, on ne peut pas les oublier.
Oui, sauf que c'était une façon très particulière de tourner, parce que c'était Jacques Rosier, donc il n'y avait pas de scénario, il y avait simplement une idée. Tout le monde signait ou acceptait l'idée. On était transportés dans les
Caraïbes.
Non, tout était improvisé.
Et c'était quoi l'idée des naufragés de
l'île
de la Tortue?
L'idée, c'était naufragés de l'île de la Tortue. C'est-à-dire c'était le contraire du club méditerranéen. C'est-à-dire que c'était 3000 francs, 300 000 francs à l'époque. Rien compris. C'est-à-dire qu'il fallait, c'était un nouveau Robinson. C'est-à-dire qu'il fallait.
C'est Koh-Lanta, quoi. En fait.
Oui, c'est ça. Oui, un petit peu. Il fallait pêcher ou chasser pour se nourrir. On dormait n'importe où. Alors, ce qui était un petit peu compliqué, c'est qu'il essayait de mettre les acteurs dans les mêmes conditions que les personnages. Alors moi, c'était la première fois que je faisais du cinéma. Je trouvais ça,
Non, je vous écoute.
Et sauf que c'était pas toujours, c'était un peu compliqué le tournage. C'était très compliqué.
Humainement, physiquement.
Humainement, il y a de grosses tensions parce que c'était un bordel insensé. Et en même temps, on a fait le film.
C'était un beau film.
Non, parce que on faisait corps avec le metteur en scène, parce que moi c'était la première expérience, je connaissais rien au cinéma, hein, je savais pas comment ça se faisait. Je pensais que ça se faisait comme ça, le cinéma, c'était improvisé et tout, alors que finalement tout est toujours très maîtrisé.
C'est une autre école, l'improvisation quand même, par rapport à incarner et apporter un texte.
C'est-à-dire qu'il y avait une situation, ouais. Et il appuyait sur le bouton en disant maintenant les enfants, allez-y. Alors, il nous donnait un petit peu de rhum avant pour qu'on soit bien chaud.
Oui, ça.
Ça donnait des résultats absolument apocalyptiques.
Isabelle, vous avez déjà fait
et tout le monde, ce que je voulais dire simplement, c'est que tout le monde s'est barré du tournage. Il restait plus que Jacques Villeray et moi. Moi, je faisais l'accessoiriste. Jacques Villeray, le premier assistant. Et il y avait aussi une actrice dont je ne sais plus le nom malheureusement.
Je suis curieux de revoir ce film.
Et on a tourné des séquences à quatre, donc Jacques Rosier appuyant sur le bouton de la caméra. Et c'est pas les plus mauvaises séquences, on voit pas la différence. Alors, je sais pas si ça aurait pu tenir tout le film, mais en tout cas, c'est quand
ça s'appelle Les Naufragés de l'île de la Tortue, hein, pour ceux qui ont envie de revoir après avoir eu ces explications. Ouais. Je pense qu'on le verrait pas de la même manière en même temps. Ça va être intéressant. En 1988, Isabelle Carré, écoutez. Sweet dreams are made of this. Who am I? Sweet Dreams, Eurythmics, dans ces années, vous vous présentez au conservatoire.
Rétamé au premier tour.
Et je n'arrive pas à le croire. Mais pour moi, je vous le dis dans le blanc des yeux, je vous l'ai déjà dit, Isabelle, vous êtes l'une des meilleures comédiennes que l'on ait eues. Non, mais sincèrement, mais je vous ai vu, vous savez, plein de fois au théâtre, au cinéma, je vous adore, vous êtes tellement excellente comédienne. Comment vous avez pu rater le conservatoire? Ils étaient
en forme? J'avais 18 ans et j'en faisais 12, et j'avais très très peur. Et en plus, j'avais une scène où je devais regarder chacun, enfin ça c'était la mise en scène de mon prof, je devais regarder chacun dans le blanc des yeux pour dire mes phrases, et ça ne m'a pas aidée.
Donc vous pensez que vous n'aviez pas été bonne ce jour-là?
Ah non, vraiment. Je pense que j'étais vraiment à chier.
Ouais. Ou c'est eux qui vous ont loupé, ça a été un rendez-vous raté avec le conservatoire?
En tout cas, c'était pas plus mal, parce qu'après j'ai travaillé, même si ça restait un rêve d'être dans ce sein des seins du conservatoire, comme d'être à la Comédie Française, enfin de faire partie d'une troupe comme ça, c'est vrai que ça reste un rêve.
Tu peux être brillant et pas avoir le bac, hein, par exemple. Tu peux être intellectuellement supérieur à la moyenne, pas avoir les examens, tu n'es pas fait pour être dans les examens ou cartonné aux examens.
Pas être dans un moule en particulier.
Oui, les écoles, c'est pas évident.
Oui, pas correspondre aux attentes d'un concours, je sais pas, et tu peux être brillant par ailleurs.
Il y a une part de hasard, de chance.
Puis de formatage aussi.
Et peut-être que ça vous a motivé encore plus pour vous battre.
J'étais bien déprimée après, je dois pas le cacher. Et après, oui, j'ai rebondi grâce à un rôle. En fait, on m'a appelée pour faire la fille de Catherine Deneuve. Et je me suis retrouvée sur le plateau de...
Non,
alors ça c'était après, non, c'était le deuxième, c'était avec... Alors il y avait Jean Carmet, Giraudoux, Boringer et Deneuve, et on mangeait notre soupe tous ensemble. Je me sentais un peu un intrus s'est glissé parmi vous.
Alors, même question que celle que vous avez posée à Patrick Chesnais, quand vous lui avez demandé tout à l'heure, ça t'a pas découragé au point d'abandonner, vous, l'échec du conservatoire?
Si, c'était un peu limite, j'avoue. Mais voilà, on m'a appelé 15 jours après pour faire ce rôle et voilà, j'ai fait le casting, ça a marché et ça m'a donné confiance. Ouais.
Tant mieux. Patrick Chesnais, dans ses années 80, écoutez. Dans les uns contre les autres, et vivre les uns avec les autres, on se caresse, on se cajole. Les uns contre les autres. On est à la pointe de l'émotion dans vos choix musicaux, Patrick Chesnais, on est d'accord.
Ouais, entre Murray et Starmania, j'adore, c'est toutes les années 80 qui t'explosent à la figure. Et j'adorais Fabienne Thibault.
Et Starmania n'a pas été un succès public lorsque ça a été joué au Palais des Congrès, mais en tout cas musical, c'est devenu YouTube, c'est culte, évidemment. Et maintenant, c'est culte. Et Fabienne Thibault, quand vous dites j'adorais, c'est-à-dire vous rencontrez les artistes que vous aimez, vous êtes les mêmes,
s'ils
sont pas de
votre... Fabienne Thibault, j'ai fait des émissions de télé avec elle, comme ça, par hasard. Mais
et vous leur dites que vous les aimez?
Non.
Ou vous êtes ludique? C'est vrai?
Non, si, sûrement, j'ai dû lui dire, lui faire sentir, probablement, oui.
Vous remportez le César du meilleur acteur dans un second rôle pour La Lectrice, là aussi, film incontournable, aux côtés de Miu Miu et de Michel Deville. Vous gardez un souvenir particulier de ce tournage cette fois-ci? Enfin, autre en tout cas que le premier tournage?
Oui, c'était Michel Deville. Je jouais sur un théâtre, j'étais un peu fatigué, il fallait aller en banlieue tourner. Enfin bon, toujours est-il qu'à la fin de la première prise, il a applaudi. Il m'a dit « je n'applaudis jamais, mais là j'ai pas pu m'en empêcher », donc ce qui était très flatteur. Et ce qui était aussi encore plus flatteur, c'est que je devais à la fin du film avoir un sexe en érection. Donc on a décidé que ce ne serait pas le mien. Donc
vous avez fait un casting.
On a décidé. Comment ça se passe? On se réunit, on se dit.
Non, non parce que non, si tu joues une scène comme ça, c'est toute la journée. Hein.
On l'a regardé, on a dit non, c'est pas possible, on va en prendre un autre.
Ça peut blesser des enfants.
Non.
J'aime bien la précision d'Isabelle, je te préviens, si tu le fais, c'est la journée entière.
La journée entière. Quand tu pleures la journée entière pour une scène qui va durer une minute.
Donc quand tu bandes, c'est la journée entière.
Oui, mais moi, on ne me demandait pas de bander, on me demandait simplement d'être d'accord sur la taille du sexe qu'on me présentait.
Comment
était fabriqué en plastique et on ne sait pas quoi. On me dit là, ça va. Je dis non, un petit peu plus. Oui, là, c'est bon.
Touche arrière, c'est bon.
Et honnêtement, maintenant, avec le recul.
Hein?
Honnêtement, avec le recul.
Il était trop petit. Vous l'avez trop petit.
C'était tout à fait présentable. Je ne renie rien.
Mais finalement, c'était le vrai.
Deuxième film à revoir maintenant d'un nouveau regard. Dans les années 2000, Isabelle Carré, écoutez. Björk. Vous aussi, vous recevez un César à votre tour, le César de la meilleure actrice pour votre rôle tellement fort et tellement bouleversant dans ce souvenir des belles choses de Zabou Breitman aux côtés de Bérard Campan. C'est un film qui, allez, je vais faire la mauvaise vanne, marque les mémoires, mais en tout cas, on peut pas le voir et l'oublier, ce film, tellement il est fort. Vous recevez également un Molière. Ce sont des belles années 2000 quand on vit ces moments-là. On a l'impression de d'une reconnaissance et d'être adoubé par ses pairs.
Les récompenses, ça donne confiance, c'est très agréable, mais ce qui est encore plus bon à vivre, c'est les tournages quand il se passe comme celui de Zabou avec Bernard. Moi, je voulais plus le quitter, ce tournage, quoi. Je voulais retourner aux écureuils, donc l'endroit où on est avec Bernard et revivre ça. C'était inoubliable. Et c'est vrai que je dois aussi à Zabou mon premier Molière. Mon deuxième, pardon. Molière avec L'hiver sous la table, et là aussi on a joué 247 fois, et c'est comme si on l'avait joué 3 fois en fait, tellement on était bien, tellement on était content de jouer ça.
Au moment où ça se passe, on sent qu'on tient quelque chose de magique dans sa carrière.
Ça m'est arrivé de penser faire un chef-d'œuvre et en fait de voir le film et de trouver qu'il était raté.
Non, mais il y a le plaisir de l'instant présent.
Ouais, voilà, aussi. C'est ça qui compte en fait. Le résultat, en fait, enfin pour les acteurs, importe peu. Nous, ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est ce qu'on. Et d'ailleurs, on le sent encore davantage quand on est sur le plateau et qu'on voit les gens respirer, avoir ce silence incroyable qu'il y a par moment. Ou rire, ou enfin partager ça, quoi. Alors les récompenses, oui, c'est très agréable, mais c'est irremplaçable par rapport à ce moment qu'on peut ressentir dans une salle et sentir que les gens sont là, adhèrent, quoi.
Et d'être en équipe. Vous parlez beaucoup de troupes, notamment pour la pièce au Théâtre du Rond-Point. Vous parlez
surtout après avoir joué un monologue. Là, j'ai joué un monologue sur Audrey Hepburn. J'ai adoré, mais retrouver une troupe après, c'est
c'est quoi ? C'est soulageant, c'est
oui, rassurant. Oui, parce qu'on n'est pas tout seul à mettre le rythme, on n'est pas tout seul à sur un fil. À essayer de ne pas avoir de trous. Ouais, on peut se sauver les uns les autres.
Le problème, c'est que vous ne vous choisissez pas. Donc, comment se. Les uns les autres.
On ne se choisit pas.
Ouais. Donc, comment se retrouver comme ça en groupe sans s'être préempté ?
C'est le travail du metteur en scène. Quoi.
Parfois, non, c'est le metteur en scène.
Mais comment savoir
c'est comme de faire un bon dîner, quoi, le metteur en scène. Non, mais. Est-ce qu'il va savoir faire
bon
ça,
dîner,
réunir les gens.
Le bon dîner, vous choisissez vos amis pour partager un repas.
Mais c'est le mélange aussi, l'alchimie qui se crée entre les gens.
Mais ma question, c'est comment on se ressent quand on est peut-être, pardon, mais imposer les uns aux autres. Est-ce qu'il faut arrondir les angles ? Est-ce qu'il faut faire des compromis ?
Ben, pas, parfois, il peut y avoir des tensions, des incompréhensions.
Vous avez tout vécu, Patrick.
Oui, oui. Moi, j'ai subi des incompréhensions grandioses, oui. Mais non, ça se passe bien. Souvent, il y a un esprit de troupe que moi, j'aime bien, personnellement, avec des personnalités très différentes, venues d'horizons très, très différents, des générations aussi très différentes. Il y a des gamins, là, des jeunes acteurs qui débutent plus ou moins.
Non, mais il vous est déjà arrivé d'être sur scène et de ne pas cautionner ou aimer ou admirer le jeu de partenaires. Vous êtes obligé de composer et d'aller quand même.
Ah oui, mais ça fait partie du job. Quand vous invitez des invités que vous aimez pas, ça vous arrive ?
Non, on les invite pas.
Ah bon ?
Non, on les invite pas.
Voilà, vous les invitez, puis vous vous rendez compte que vous l'aimez pas, mais c'est trop tard.
Pendant l'émission ?
Oui.
C'est déjà arrivé.
Ah.
Mais ça, c'est que pendant l'émission. Mais sinon, sincèrement, quand on n'aime pas, on n'invite pas. Non, mais vraiment. Vraiment.
Mais j'imagine que dans une troupe, quand elle est constituée, on peut connaître les gens par leur filmographie, mais pas les connaître humainement et découvrir sur place.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, dans un certain par exemple, le théâtre privé, c'est très différent au théâtre public. On vous demande un peu votre avis sur la distribution. Alors, vous le donnez, mais parfois, vous ne connaissez pas forcément les gens. Vous les aimez pour ce qu'ils sont professionnellement.
Avec la notoriété que vous avez tous les deux, est-ce que vous pouvez imposer quelqu'un ou dire...
Au théâtre privé, oui, mais pas là. Là ça dépend. Il n'y a pas de règle absolue. On peut donner un avis. Moi, je n'aime pas tellement ça. Je n'aime pas...
Non, mais si vous savez...
Si on me demande, je réponds...
Par exemple, moi, j'ai suggéré Ramsey pour Une vie ailleurs.
Ouais, le film qui sortira le 22 mars.
Et j'avais très, très, très envie de le retrouver, Ramzi Bedia, parce qu'on avait travaillé ensemble sur le film de Jalil Esper et je l'avais trouvé absolument incroyable dans un autre registre.
Et il est encore dans ce film.
Et il est phénoménal dans ce film. Et voilà, et je suis tellement, tellement heureuse d'avoir émis l'idée que ça pouvait être que lui.
Et le couple fonctionne bien. Ouais. Nous allons reparler de Honneur à notre élu, cette pièce qui a une toile de fond politique, mais qui est aussi une histoire humaine, une histoire d'amour, d'admiration, de trahison, de magouille un tout petit peu, mais comme il peut y en avoir dans n'importe quel métier, sauf que là, comme la toile de fond est politique, il y a une résonance totalement, totalement différente. Nous avons demandé à un spécialiste, parce qu'on a toujours besoin d'un spécialiste, de quelqu'un qui c'est tout mieux que nous. Guillaume Tabar, merci Guillaume de venir à notre micro, malgré l'actualité, parce que je vous ai vu sur votre portable.
Moi aussi, je regarde.
Il n'arrête pas.
C'est ce qu'il y a un truc qui se passe.
Il y a un truc, le salon de l'agriculture et un François Fillon, peut-être.
J'ai 10 minutes maintenant.
Vous avez des infos sur François Fillon, le salon de l'agriculture?
On sait que François Fillon parle à midi, et j'ai vu que France 2, pour retransmettre cette déclaration, a décidé de décaler...
Tout le monde veut prendre sa
place. Voilà, l'émission qui s'appelle Tout le monde veut prendre sa place, qui est diffusée à midi théoriquement.
Donc il y a du matos. Mais
en même temps, c'est un titre qui est approprié.
Si un jour j'avais su que c'était Fillon qui l'apprenait. Si un jour j'avais su que Fillon l'apprenait.
Heureusement que c'est en direct.
ce que l'on sait ici, on sait que Pénélope Fillon n'est pas en garde à vue, contrairement à une rumeur qui circulait en toute rédaction.
On sait que pendant... C'est-à-dire que l'information de base, c'est Fillon annule sa participation au salon de l'agriculture. Et du coup, en l'espace d'une heure, il y a eu toutes les rumeurs, parfois contradictoires.
Et on annonce
que Pénélope Fillon est en garde à vue, ensuite qu'elle ne l'est pas. On dit que Fillon va se retirer, après on dit qu'il veut au contraire se maintenir.
On dit qu'il a été Premier ministre, c'est des conneries ça aussi ou pas?
On dit qu'il est Premier ministre, mais ça on a pu le vérifier pendant 5 ans.
Il a beaucoup dit « je ne serai jamais le plan B » et il sera à ses côtés pour faire sa déclaration.
Dernier état des rumeurs, mais ça...
Dans 10 minutes, Laetitia Gaillet sera là pour nous informer sur Inter.
Un témoignage de Pénélope Juppé. Ouais.
En tout cas, ce qui est certain...
Parlons d'histoire,
c'est que Marine Le Pen est en train de faire l'hélicoptère avec sa bite.
Non mais parlons...
C'est pas celle de Patrick Chenet.
Parlons du...
Ça ferait un très bon édito ça.
Il y a un collectif. Aux éditions Perrin, un collectif sous la direction d'Alexis Brézé et de Solène Leroyer qui a signé le deuil du pouvoir. Vous faites partie de ce collectif. Vous vous êtes penché sur la manière, la façon, mais que ce soit dans la mise en scène ou dans le vécu, la façon dont les présidents de la République quittaient l'Élysée et quittaient le pouvoir. Vous, en l'occurrence,
c'était Giscard.
Et qui a totalement loupé sa sortie.
Mais oui, le malheureux Giscard, on retient une seule chose, effectivement, c'est ce fameux au revoir.
La chaise vide.
Et qui est la conclusion d'une intervention qu'il avait travaillée, mais vraiment avec un soin minutieux. Une très belle intervention où il parle de l'histoire de la France, où, avec pas mal de lyrisme, mais aussi un peu de grandeur d'âme pour quelqu'un qui vient d'être battu. Mais voilà, Giscard avait une telle obsession de la mise en scène, et n'est pas cinéaste qui veut, par un geste qu'il avait pensé, ce qu'il dit, je voulais mettre en scène le départ physique du pouvoir, donc que les gens prennent conscience que oui, concrètement, je quittais l'Elysée, d'où ces 10 secondes où il marche dos à la caméra, où on le voit s'éloigner.
On sentait tellement sa vexation et son narcissisme, en fait. C'est ça qui nous a frappés.
Oui, mais ça qui est fascinant, vous savez, dans l'œil du pouvoir, c'est que, pourtant, un président, il a été élu au suffrage universel, on est en démocratie, et pourtant, il subsiste quelque chose, quand même, du fond monarchiste, monarchique de la France. Bon, et un président est un personnage à part. Et le pouvoir, c'est pas uniquement une fonction qu'il exerce pendant un temps donné. Voilà, j'ai fini mon mandat, je m'arrête. Mais il incarne la fonction. Et donc, c'est jamais quelqu'un qui quitte le pouvoir, c'est toujours le pouvoir qui quitte quelqu'un. Et alors, selon les personnages, selon les personnalités, ben certains, ça donne du grandiose, d'autres, ça donne du grotesque. Alors, ils sont tous finalement très attachants au moment où le pouvoir se détache.
Oui, enfin Guillaume, il a voulu jouer, montrer une chaise vide et comme s'il partait nu comme ça sur une île déserte. Y compris, il a quitté à pied l'Elysée, pas de voiture, donc non, comme
et
si
les sifflets.
Je redevenais un piéton lambda, ce qui était totalement pas crédible à ce moment-là. Le choix d'appeler ça le deuil du pouvoir, c'est vraiment vécu comme une mort ou une petite mort?
Ben oui, pour tous, hein, que ce soit De Gaulle ou Sarkozy, Giscard, ça, tous. Alors, bien sûr, il y a le cas particulier de Georges Pompidou qui meurt en cours de mandat, donc là c'est un deuil au sens propre du terme.
Et François Hollande qui se suicide? Puisque c'est lui qui décide d'arrêter.
Mais il y a aussi une forme de deuil. C'est vrai qu'on voyait François Hollande au salon de l'agriculture un peu de sifflet, mais moins que d'habitude, et plus finalement du désintérêt pour quelqu'un qui a dû renoncer à se présenter, se rendre compte qu'il va quitter le pouvoir en grande partie oublié, c'est aussi quelque chose de terrible.
Ouais, il a choisi de renoncer, il a dû.
Bah, il était contraint.
Ouais, ouais, par ses équipes, peut-être. Mais vous avez raison. Il y a une espèce de laisser aller dans l'entourage, y compris quand il y a un coup de feu qui se passe lors d'un discours. Les services de sécurité ne s'occupent absolument pas du président de la République, ce qui est.
Mais ils attendaient avec impatience, même.
Non, mais c'est pas ça. C'est juste dingue.
C'est
eux qui ont tiré. C'est le tireur d'élite. Mais normalement, il y a un coup de feu. Tout le monde va protéger le président de la République. Là, c'est. Rien à foutre.
Oui, alors maintenant, imaginons ce qu'aurait donné une scène de panique si on s'était rué sur lui pour le retirer de la tribune.
Mais normalement, c'est leur rôle, ils doivent le protéger. Ouais, il y a un coup de feu, ils doivent le protéger.
À l'arrivée, ça s'est plutôt bien terminé.
Imaginez qu'il y ait Poutine ou Trump à côté de lui pour une conférence de presse commune. Il se passerait quoi?
Ça aurait été différent. Non, mais finalement, il y a autour de François Hollande une forme de désacralisation du pouvoir, là où tous ces deuils successifs que l'on raconte montrent la dimension très sacrée du pouvoir politique et du pouvoir présidentiel.
Alors Guillaume, nous vous avons invité pour parler aussi de l'écho que fait cette pièce, honneur à notre élu, qui commence ce soir au Théâtre du Rond-Point. Et est-ce qu'il y a un profil psychologique particulier de ceux ou de celles qui brident le pouvoir, qui brillent le pouvoir? Est-ce que c'est vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Chesnais, ils pensent d'abord à leur intérêt personnel avant l'intérêt de la collectivité? C'est quelque chose que l'on voit d'une manière historique à travers les...
Oui, mais je crois que les deux sont mêlés. Et moi, c'est ça qui me fascine dans la politique, c'est qu'il n'y a pas, vous voyez, le monde, il n'est pas binaire, il n'est pas blanc et noir. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont le seul souci de l'intérêt général et ceux qui n'ont que pour seul souci leur ambition personnelle. Les deux sont mêlés. Bien sûr qu'un politique, c'est presque sa définition, a l'envie du pouvoir, c'est-à-dire l'envie d'être aimé, l'envie d'être regardé, l'envie de plaire à tout le monde. Mais en même temps, pour plaire, on peut faire plein de métiers. Or, s'ils font malgré tout la politique, s'ils se présentent à des élections, s'ils briguent des mairies, des départements, ou la présidence de la République, c'est aussi qu'il y a en eux une volonté, quelque part, de servir le pays.
Et du pouvoir, non, mais comme le disait Patrick, c'est
oui, mais,
pouvoir.
Mais les deux, j'ai
c'est
ils sont
mélange des deux.
C'est mélange des deux, sauf que être... S'il voulait être connu, reconnu, être comédien, être chanteur, il pourrait le faire. Là, c'est avoir le pouvoir, c'est décider aussi pour
mais
les autres.
Mais être animé par le bien commun, avoir une responsabilité au sein ça de la exister. Cité, c'est possible.
Oui, mais je pense que non seulement ça peut exister, c'est mais je pense que les deux sont mêlés chez tous. De Gaulle à Sarkozy, c'est la même
peut-être
réalité.
Peut-être avec des degrés un petit peu différents. Vous parliez du parallèle avec les acteurs. Il y a des acteurs qui, clairement, ont une ambition de faire la couverture des magazines et d'autres qui ont plus envie de plaisir
de
du texte.
Les égos ne sont pas les mêmes, mais c'est...
Voilà, c'est ça. Ouais.
Non, mais même un De Gaulle... dont on a une image personnelle historique, c'est aussi quelqu'un qui avait aussi ses petits intérêts, qui était jaloux lorsque, par exemple, on raconte lors du départ de René Coty, le malheureux René Coty, qui
dans
voulait
livre,
bien faire, qu'il fait revenir au pouvoir, et René Coty qui avait des idées sur les institutions, qui allait d'ailleurs dans le sens de la cinquième. Bon, et il demande juste que le projet de De Gaulle soit présenté au Conseil des ministres. Et De Gaulle le balaye d'un revers de main. On s'est beaucoup moqué de Hollande qui ne raccompagnait pas Sarkozy jusqu'à sa voiture. Bon, mais là, il n'y a eu aucune passation de pouvoir entre De Gaulle et René Coty. Le malheureux René Coty, De Gaulle l'a planté sur la place de l'Étoile le jour de la cérémonie.
C'est pas les mêmes institutions. C'est-à-dire le rôle de Coty était beaucoup était plus représentatif et un peu... inaugurer les chrysanthèmes, alors que le rôle de De Gaulle en tant que président, c'était
bien sûr,
essentiel.
Mais en tout cas, il y a de la grandeur et de la bassesse. Quoi.
On a 30 secondes, Guillaume, parce que je veux absolument pas rater les infos de Michi aujourd'hui. Isabelle Carré et Patrick Chesnais sont dans une pièce où les personnages, enfin l'un des deux, l'opposant en l'occurrence, incarné par Patrick, est prêt à tout, y compris à créer de faux dossiers, à créer des magouilles pour nuire à son adversaire. Ça, à travers l'histoire que vous connaissez par cœur de notre pays, ça arrive souvent. Parce qu'on parle évidemment de ces machinations, de ces dossiers qui sortent, comme là évidemment sur l'affaire Fillon, de dire comme par hasard, tout ça sort en pleine élection présidentielle. On n'a jamais vécu une élection
bien
comme
sûr,
ça dans
oui.
notre histoire. Hein.
Non mais bien sûr que des coups tordus, il y en a toujours eu, il y en aura encore.
Ou l'affaire DSK. Bon,
en même temps, la réalité est souvent plus prosaïque. C'est-à-dire qu'il y a une part de hasard. Voilà. Il n'y a pas un grand complot qui serait dans une arrière-salle de l'Élysée ou des partis. Voilà. Les choses se passent comme ça. Parfois, on sort des trucs. Certaines affaires rencontrent de l'écho, d'autres non. Il y a une part de hasard et c'est malheureux pour ceux qui en sont victimes.
Tout est extrêmement... Ce collectif s'est intéressé à Mac Mahon, Lebrun, Coty, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, peut-être une nouvelle édition avec Hollande. En tout cas, le deuil du pouvoir, les 100 derniers jours à l'Élysée. Merci Guillaume d'être
Merci
venu
à vous.
Nous parler, nous éclairer. Honneur à notre élu. Nous continuons d'en parler avec Isabelle Carré, Patrick Chesnais qui sont nos invités jusqu'à midi et demi. cette bande originale avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Villa,
bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Pierre-Emmanuel.
Oui, bonjour.
Et nos invités, Isabelle Carré et Patrick Chenet.
Bravo.
Honneur à notre élu, je pense que pour une promotion, ça ne pouvait pas mieux tomber que vous veniez aujourd'hui à ce micro nous parler de cette pièce qui a une Marianne même pour incarner et symboliser ce qui s'y passe, c'est-à-dire à la fois la grandeur de notre République, de l'État, et puis tous ceux qui cherchent à la salir, cette Marianne. Vous avez le sale rôle, parce que elle est parfaite, Isabelle Carré, comme dans la vie d'ailleurs, mais elle est parfaite au théâtre.
Non, non. Enfin, les beaux rôles au théâtre, au cinéma, ce sont les rôles imparfaits, cher ami. Les rôles avec des creux, des bosses et des complexités.
Des aspérités.
Mais être trop parfait est une forme de monstruosité aussi.
Ouais, ouais. Ouais, c'est ce que vous avez dit, Isabelle, d'ailleurs. Vous étiez inquiète de jouer le rôle de cette dirigeante d'une ville, donc de cette maire qui se retrouve chahutée par un opposant qui veut tellement avoir sa place, bah, qui va créer des affaires de toutes pièces, totalement fausses, pour la salir, qui ne va même pas répondre à cette agression. On verra bien au final, d'ailleurs, si elle gagne ou si elle perd les élections suivantes, parce que la pièce se déroule entre la nouvelle élection de cette maire ou mairesse. Je sais pas, on n'a pas le droit de dire mairesse.
Non, Madame le maire.
Madame le maire. Si on veut.
D'accord, Madame le maire, alors allons-y pour un Madame le maire, et jusqu'aux 4 ans suivants, c'est-à-dire à la nouvelle campagne électorale. Et entre les deux, c'est 6 ans entre les deux ? Je crois que c'était 4.
Non, c'est 4 ans.
Municipal ?
Ah bah nous, c'est 4 ans. Nous.
Oui, dans la pièce, c'est 4, mais les municipales, c'est 6.
Ouais. D'accord, prouve encore une fois que c'est une fable et une fiction.
On a rendu à 5, on fait 5.
Voilà, le goût du compromis.
4,5.
Et donc, d'être si parfaite, ça donne un côté monstrueux, comme le dit Patrick.
Mais elle a quand même une faille, parce que c'est son passé. C'est d'ailleurs là où il va s'engouffrer. Et
personnel, pas professionnel.
C'est son passé, voilà, familial. On sait très peu de choses d'elle et son silence en fait permet d'y projeter tous les fantasmes et il va utiliser ça en fait et comme elle garde ce silence et qu'elle ne se défend pas, elle va chuter.
Se servir des problèmes dans une famille pour faire chuter son adversaire, c'est moche, c'est ce qui se passe dans Honneur à notre élu, Patrick Chenet.
Non, ce qui est très intéressant dans la pièce aussi, c'est qu'il combat par tous les moyens, même les plus inavouables, notre élu pour avoir sa place, mais en même temps, il ne peut pas se résoudre à son absence. C'est même dans un état proche de la folie, quoi.
Et du reste, il n'arrive pas à se réjouir.
Je t'aime, je te déteste, c'est un mélange de haine et d'amour.
Oui, voilà, c'est ça. Et si vous voulez, je pense que Marine Diane a dû reprendre des éléments, des arguments qui jouent dans ce genre d'élection où on est son ennemi héréditaire, son adversaire de tout temps. Crée une fascination, crée une espèce de sortilège.
Et dans le nom de votre personnage, de toute façon, vous êtes l'opposant.
Oui,
c'est-à-dire que votre nom vous caractérise dans votre relation à l'autre. Donc
sauf
sans elle, vous n'existez pas.
À la toute fin, je deviens l'élu.
L'élu, oui.
Opposant devient
l'élu. Elle reste notre élu jusqu'au bout.
Elle reste notre élu,
c'est ça qui est beau. Ouais. Honneur à notre élu, justement, c'est au Théâtre du Rond-Point à partir de ce soir, avec Isabelle Carré, Patrick Chenet, entre autres. Il y a également Jean-Charles Cliché, Romain Cotard, Yann Ameneker, Jean-Paul Muel, Chantal Neuwirth, Agnès Pontier et Christelle Tual. La mise en scène est de Frédéric Bellier-Garcia et l'auteur quand même, Marie Ndiaye, on l'a dit, on l'a rappelé, honneur à notre élu. Voici le grand retour, tant attendu,
ça, c'est vrai.
Tant attendu depuis tant de jours, Daniel Morin est en force.
Et là je crois que c'est grave. Très grave même. Hier, le président de la République, François Hollande, est en déplacement. En déplacement, pas foufou non plus. Hein. Il est quelque part prendre un passage à niveau pour l'inauguration d'une ligne à grande vitesse. Dans ce genre de circonstances, la teneur des discours est rarement trépidante. L'excitation est peu souvent au rendez-vous. Ça n'éclenche jamais de réaction très vive. Et pourtant, à un moment, François Hollande prononce cette phrase malheureuse.
Bordeaux Dax.
Et là, c'est le drame. Un gendarme devient fou, se tire une balle dans la jambe. Alors, on peut ne pas aimer Dax. On peut très bien ne pas aimer Bordeaux et tout le sud-ouest. Mais est-ce une raison suffisante pour tirer un coup de feu? Non. En tout cas, je crois pas. Je crois juste que les gens n'en peuvent plus du tout, mais plus du tout, de François Hollande. Si un gendarme se met à utiliser son flingue quand le gars prononce Bordeaux Dax, qu'est-ce que ça va donner à la fin de son mandat ? France Inter flash spécial. Hier, François Hollande promenait son chien dans la cour de l'Élysée. Un garde républicain, sans qu'on sache pourquoi, a sorti son sabre, a coupé la tête de son cheval. Apparemment, le président lui aurait dit « Bonjour !» et l'homme n'aurait pas supporté. Suite à cet incident, l'entourage du président a préféré annuler sa visite prévue cet après-midi aux forces du GIGN. Bon, on passe au rendez-vous incontournable parisien de la semaine, le Salon de l'Agriculture. C'est jusqu'au 5 mars, porte de Versailles. Aujourd'hui, on y attend notre futur président, Emmanuel Ier. L'homme que tout le monde veut rallier. A-t-il autant d'impact auprès des animaux qu'auprès des hommes, Emmanuel Macron ? Oui, je le crois. Je le crois capable de redonner espoir aux troupeaux, aux meutes et aux basses-cours. Chers compatriotes issus du bétail, je suis avec vous. Non, il n'y a pas de fatalité. Si vous et moi, tous ensemble, main dans la main, mimine dans la papate, nous décidons de nous mobiliser, de nous mettre en marche. Oui, en marche, eh bien rien ne nous arrêtera, rien, vous m'entendez, rien du tout. Oui, notre agriculture est bonne, notre agriculture est saine, notre agriculture est généreuse. Elle est à l'image de la France, belle, fière, vigoureuse. Alors, debout les vaches, avec moi les brebis, tous ensemble les canards, oh les cœurs, les pintades, et tous ensemble, en marche, oui, en marche vers une sixième république, où d'une même bouche, d'un même bec, d'un même museau, d'un groin commun, nous déclamerons à l'unisson les mêmes valeurs de liberté, de courage, de volonté de vivre ensemble, dans une France plus juste, dans une France plus belle, dans la France d'Emmanuel. Emmanuel, vive la République, coq, vive la France, me bec, cui, vive moi. Oui, il me galvanise ce mec, j'y crois à mort. Enfin, j'y crois surtout plus qu'en François Fillon. Merci.
À demain.
France Inter, Maggie, la bande
originale. C'est un coming out ?
Ah non, mais j'adore.
C'est un coming out, mais c'est quoi, c'est... La ferme des animaux version Daniel
Morin. C'est le film Emmanuel, peut-être ?
François Valéry. Triste personnage.
Ah oui, c'est clair, oui.
Triste personnage. Mais quel artiste! Quelle chanson!
Quelle prémonition surtout! Parce qu'elle est pas jeune cette chanson. Elle est sur... C'est la musique d'Emmanuel, le film?
Non, c'était pas celle du film.
Elle était blonde?
Non.
Non.
Ah bon? J'ai pas tous vu, il y a eu plusieurs numéros. Hein. Il y a plusieurs numéros. Merci Daniel Morin, en pleine forme. En pleine forme. Comme quoi, tout est une question de l'analyse.
C'est ça.
C'est le prisme.
C'est le ressenti.
C'est le ressenti, exactement. Isabelle Carré et Patrick Chédé dans le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudali. C'est maintenant, Leïla.
Isabelle, Patrick, je sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture et on commence par un son pour vous, Isabelle.
L'orphelin avait envie de mordre. Ils se ressaisirent avec leurs mains et leurs bouches. Il ouvrit les bras. Au moment où le plaisir le fit passer dans son couloir mystérieux, ils se regardèrent dans les yeux. Avec une ardeur fraternelle, ils voulaient faire ensemble ce voyage à travers les enfers, où la plupart se quittent et se perdent.
Ah, Romy Schneider.
C'est quel
dans...
film, ça ?
C'est Une femme à sa fenêtre.
De... Une femme à sa fenêtre, exact.
De Pierre Granier de Fer, ouais. Avec Philippe Noiret, Victor Lanoux et Romy Schneider.
C'est le
vous...
premier film que j'ai vu d'elle, en fait.
Voilà, c'est pour ça que je vous ai ressorti cet extrait, je crois que vous connaissiez.
J'avais retenu d'autres phrases, moi, genre « préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort ».
Wow. C'est ça, vous connaissiez en fait les répliques, pas mal de répliques par cœur.
En fait,
film.
À l'époque, j'avais pas de magnétoscope. Alors, ce que je faisais, c'est que je prenais mon cahier et je réécrivais toutes les répliques du film que j'arrivais, enfin, voilà, il fallait que je fasse vite.
Attrapé au vol, ouais.
Et après, je me les redisais. C'était mon magnétoscope.
Ça va, vous avez une adolescence sympa, ça se passait bien.
Mais vous ne seriez pas un peu hypermnésique d'ailleurs, parce que vous vous souvenez que vous avez joué 247 fois la pièce de Zabou. Enfin, il y a un truc très précis chez vous.
D'avoir une très bonne mémoire.
Ouais.
Ouais. Ouais, je sais pas. C'est peut-être c'est un muscle.
Ça peut être
pas,
ça peut être utile pour votre métier.
Et ce sont ces répliques de films qui vous ont poussé à vous inscrire en fait.
Pas les répliques, hein, c'était. Enfin, c'était ouais.
Romy Schneider.
Son émotion, ses larmes. Voilà, sa beauté. Ouais.
C'est un film de 76 qui raconte la vie de Margot, qui est belle, qui est riche, qui est courtisée. C'est un vrai rêve qui attend le grand amour, finalement, dans une chaude nuit d'été et qui va voir sa vie bouleversée par... parce qu'elle a été le témoin d'une chasse à l'homme depuis sa fenêtre, en fait.
Mais en fait, toutes les jeunes actrices prennent pour modèle Romy Schneider et tous les jeunes acteurs prennent pour modèle Patrick Devers. Donc, je suis très originale.
C'est ça, c'est la
ou
dichotomie.
Patrick Chenet,
voilà, ou Patrick Chenet.
J'ai entendu les deux, moi.
Il y a des films aussi comme ça, Patrick Chenet, qui ont marqué votre vie, qui ont marqué les débuts d'une envie, qui sont comme ça importants dans votre panthéon personnel.
Moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais gamin, les Chaplin, les Buster Keaton, tout ça. Ça me rendait fou. Je voulais faire ça plus tard. Voilà. Je voulais être Chaplin plus tard.
Chaplin.
Plus tard, je serais Chaplin, je disais. Plus tard, je serais Charlot. Qu'est-ce qui m'est arrivé?
Non, mais vous avez un petit côté pince sans rire de Buster Keaton par moment. Vous aimez ça
un
aussi?
Un peu lunaire aussi. Ouais.
Oui. Si? Si, oui. Si, non, mais ça marche.
Et vous, Patrick, selon mes infos, ce sont plus des textes qui vous ont marqué enfant, et notamment cet auteur.
Un homme vit une couleuvre. Oh, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent se laissant attraper est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, qu'il fût coupable ou non.
C'est l'homme et la couleuvre de Jean de La Fontaine, c'est lu par Lucchini. Ouais. Et je crois que vous avez été collé à l'école par un pion parce que vous lisiez les fables de La Fontaine en classe.
Ah oui, c'est ça, j'étais... oui. J'étais à. Genre triplé ma quatrième à 16 ans et demi.
Mon Dieu!
Donc il ne fallait pas m'emmerder à la récréation.
Vous arriviez en mob?
Et je.
Non, il déposait d'abord ses enfants, après il allait en quatrième.
J'étais avec mes enfants en quatrième. Et. Non, ouais, c'est ça. Donc j'avais été surpris par le pion en train de lire les fables de La Fontaine. Parce que déjà, j'avais une idée d'aller au conservatoire de province, tout ça. Et. Ça s'était très mal terminé parce que je devais avoir de faire 1000 lignes, ouais. Comme quoi je ne regarderais pas les fables de La Fontaine pendant le cours de mathématiques. Et après 5 heures d'efforts, j'en étais arrivé à 650, ce qui est énorme, j'avais une tendinite. Et là, il m'a dit, il manque 250 lignes, multiplié par 7, ça fera 2800, je sais plus combien, à rendre lundi. Et là, j'ai compris que c'était la fin de ma scolarité.
Non, surtout, il savait pas compter.
Oui, enfin.
À 650, il manquait pas 250 pour arriver à 1000. Donc déjà, lui, il avait un problème, le pion.
C'est 350,
oui. Vous êtes sur vous parlez producteur, là.
Non. C'est le producteur. J'aime bien les gens qui ne savent pas compter comme moi.
Et je savais que c'était la fin.
Il y a des gens qui ont gardé 10% déjà.
Ouais. Et je savais. Je peux continuer ou je savais que c'était la fin de ma scolarité, que je ne rendrais pas le lundi à 8h 2000.
Et des bananes.
600 et des bananes.
Donc vous n'êtes plus retourné.
Pas retourné, non.
Ah, c'était ce moment-là, oui. Oui. Et il n'y a pas eu une envie de même de vous féliciter, parce que lire des fables de La Fontaine en cours de maths, c'est quand même pas scandaleux.
C'est ça,
en soi.
Quitter l'école à cause de La Fontaine, c'est pas mal.
Bah ouais, en même temps, c'est élégant.
Bah oui, mais c'était pas le fait de lire La Fontaine, c'est le fait de ne pas suivre les maths.
Oui, mais vous imaginez un monde idéal, non.
Non, c'était pas ça à l'école.
C'est dur.
Mais tu as été prof, est-ce que tu dis quoi, prof de français, si pendant ton cours de français, un élève était en train de potasser, je sais pas,
de
la physique. Non, mais une autre matière, parce que là, en l'occurrence, c'est la littérature.
Oui, mais là, c'est au-delà de la littérature, c'est la lecture de texte. Donc,
j'irais Montessori, c'est très bien. Tu choisis ton activité.
Non, mais on peut aussi se dire que c'est une sanction quand même un peu rude.
Clairement.
C'est surtout ça, à la limite.
Non, mais c'est le pion, le fâché.
Le fâché pour lui dire qu'il ne doit pas faire autre chose, oui, mais de là à le sanctionner, en même temps, bon, finalement, ça vous a plutôt porté chance.
Tellement de professeurs qui ont donné envie à leurs élèves aussi de faire du théâtre et d'aller au bout de leur passion. Là, Patrick, vous êtes tombé sur un idiot qui vous a écœuré de tout le système éducatif.
Bon, le mot est un peu fort, mais.
Quand il a mis fin à ma scolarité chaotique
jusqu'ici, c'était plutôt pas mal.
Je finis avec un cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Patrick Chenet, un bouquin aux éditions Philippe Rey, dans la collection Les Indispensables. Vous savez, c'est ce journal d'Éric Fotorino, le numéro 1, le 1, qui a sorti un collectif « À quoi sert un président ? Comprendre la crise du politique ». On retrouve ainsi des textes de Mazarine Pinjot, d'Éric Revel, de Michel Rocard, de Daniel Cohn-Bendit, de Michel Onfray, d'Olivier Duhamel, et de beaucoup d'autres, de Laurent Binet également, qui vient interroger disait à l'approche de cette présidentielle, la fonction de chef d'État, les raisons de sa dépréciation. On l'a évoqué tout à l'heure avec Guillaume Tabar du Figaro. Donc c'est des analyses politiques, sociologiques, pour aborder d'un œil neuf cette question qui nous taraude un peu tous. C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Et pour vous, Isabelle Carré, je vous offre Les Indésirables. C'est un roman de Diane Ducré qui s'était fait connaître pour son livre Les femmes de dictateurs, où elle explorait l'intimité de ces femmes qui ont accompagné ces grands hommes plus ou moins bienveillants, on va le dire comme ça. Et là, c'est un roman qui prend place au début de la Seconde Guerre mondiale, où deux amies, l'une est juive, l'autre est arienne, chantent ensemble l'amour et la liberté, essayent de dépasser le clivage qui était celui imposé par cette Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est Les Indésirables. Ouais. J'ai pas dit la maison d'édition, pardon, c'est une erreur de ma part.
Flammarion.
Merci beaucoup.
Et vous faites attention, il me semble qu'il manque la page de garde.
T'es méchant.
Moi, c'est méchant.
Vous, c'est Philippe Rey. C'est chez Philippe Rey. Les Indispensables.
C'est 7,90€, vous n'êtes pas foulé. Hein,
non. c'est le service public, Patrick Chédé.
Et encore, le cadeau était prévu initialement pour François Berléand.
Ouais, c'est
comme on préfère les acteurs.
C'est le service public, Patrick Chédé.
On arrêtait les blagues sur Berléand, je sais
pas. Non, on peut continuer.
Vous m'en voulez, Patrick Chédé? Non, ça
non,
va.
Il veut me piquer mon
livre. Non, il regarde le prix de votre
19,90.
C'est presque le triple, quand même.
Alors, quel triple? Parce qu'on sait qu'en maths, vous avez des petites difficultés.
Je me rattraperai la prochaine fois.
Le 22 mars prochain, Isabelle Carré, vous serez à l'affiche donc d'Une vie ailleurs d'Olivier Perron avec Ramzi Bedia, l'histoire d'une maman qui,
de retrouver son enfant.
Et lui pense que sa maman est morte. Il fleurit sa tombe régulièrement et elle part à l'autre bout du monde avec Ramzi Bedia, voilà, pour finalement le retrouver. Et toute la question est de savoir, est-ce que je dois bousculer ou pas sa vie? Est-ce que je dois lui dire ou pas que je suis là, ou le laisser heureux avec sa nouvelle vie?
C'est ça, Une vie ailleurs. C'est le titre du film est bien trouvé et c'est un film d'Olivier Peillon.
Et habla espagnol, vous parlez super bien espagnol.
Ben j'ai appris, ouais, je savais pas
pour
du tout.
Pour le film, hein, c'est vrai.
Ouais, je savais pas du tout. Et le précédent film de Olivier Peillon s'appelait Comment j'ai détesté les maths. Donc c'est un film.
Isoler cette phrase.
Ah, il est génial, Patrick.
Il est génial ce film, Comment j'ai détesté les maths.
C'est lui qui avait fait Comment j'ai détesté
c'est
les maths.
Génial. Ouais. C'est génial.
On peut l'offrir à Patrick.
Ouais. Ah, voilà. Le 21 juin, vous, Patrick, vous serez à l'affiche du film Les Ex de Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve et Claudia Tagbo. Quel est votre personnage?
C'est un personnage qui aime tellement sa femme qu'il décide de s'en séparer.
Trop d'amour peut tuer l'amour. Tordu, ça.
Et c'est l'histoire de quatre mecs à différentes générations qui ont des problèmes avec leur ex. Donc. Et ma femme, qui n'est pas mon ex au début du film, le devient par... voilà.
D'accord,
par
amour. C'est une comédie.
Comédie.
Comédie. Vous serez également dans L'Art d'accommoder les restes.
Non, ça s'appelle Moi et le Tché maintenant.
Ça a changé. D'accord. Oui. C'est toujours de Patrice Gauthier, ça s'est pas, absolument. Ça s'est pas bougé. Vous avez même chanté.
Oui, j'ai chanté, pour ce film. J'ai chanté du rock.
Vous chantez quoi?
Non, je sais plus.
C'est une reprise ou c'est un titre original?
Non, c'est pas un titre original, non, c'est une reprise d'une chanson de l'époque du Tché.
D'accord. Et vous tournez actuellement une série qui s'appelle The Fall pour TF1, voilà. Avec Melville Poupeau et Jean-Hugues Anglade. Là, c'est quoi? C'est plus policier, plus
d'intrigue? Oui, c'est le copier-coller de The Fall, d'une série anglaise.
C'est une série
formidable.
Adaptation de The Fall, mais version française.
Ouais. Et Isabelle Carré, peut-être une mise en scène bientôt, quelque chose? Vous revenez...
Quelque chose, oui.
Quelque chose.
Je ne sais rien pour le moment.
Mais plutôt quoi? C'est quand même des petites
pistes. Plutôt quelque chose de très différent.
Des très différents, c'est-à-dire?
Je ne dis rien.
Ah bon?
Musical, comédie, érotique pour Patrick Chénier.
Musical, j'ai trop besoin d'autotune pour faire du musical.
Les Jeux Olympiques de 2024?
Non, presque.
Bon. En tout cas, il y a du suspense.
Honneur à notre élu est au théâtre.
J'ai le goût du secret, moi aussi.
Ouais. Honneur à notre élu est au théâtre du Rond-Point à partir de ce soir et jusqu'à la fin du mois de mars avec Isabelle Carré et Patrick Chénier et avec cette volonté d'avoir le pouvoir, l'une qui gère bien le pouvoir qui est l'élu, l'opposant qui veut absolument tout faire pour avoir ce pouvoir, y compris des malversations et des mensonges et des trucages pour la déstabiliser dans sa vie privée, dans sa vie familiale. On le voit, Daniel Morin, le pouvoir peut devenir une drogue dure, comme pour toutes les drogues. D'ailleurs, ça abîme. L'important, c'est de pouvoir en décrocher, de savoir en sortir, de faire le deuil, comme on l'a dit.
Il est propre, il est doux, il sourit à la vie, youpi, c'est Monsieur Guy.
Oh, joli.
Même si aujourd'hui,
Aussi génial que vous puissiez être, monsieur Guy, vous mériteriez que la vie vous casse la gueule, tant votre réflexion est minable. Non, monsieur Guy, le pouvoir, c'est cool. Le pouvoir, c'est le kiff. C'est tip top, comme disent les toxicomanes charentais. Et vous n'étiez pas loin d'être d'accord avec moi quand ce matin, comme tous les matins, vous étiez en train de vous recueillir devant le portrait de Moubarak que vous avez mis dans notre bureau. Et quand, après votre petite séance de recueillement, vous vous mettez nu devant le miroir où vous bandez vos petits muscles en criant à la face du reflet « C'est qui le champion, hein ? C'est qui le champion ? C'est toi, Nagui ? C'est toi, bon Dieu, ne l'oublie jamais, même si Daniel est de retour, c'est toi le champion !» Espèce de malade mental. Et depuis quand la drogue s'abîme? C'est quoi ces conneries, l'animateur égyptien? Hein? Regardez Pierre-Emmanuel Barré. J'ai jamais vu un mec aussi en forme que lui. Ben, je peux vous dire, j'ai jamais vu non plus un mec aussi drogué que lui. Et vous, monsieur Guy? Et vous? Oui, vous êtes là à faire votre animateur service public. Ouais, la drogue, c'est de la merde. La drogue, c'est pas bien. La drogue, ça tue les enfants et les chiens. Manger du quinoa. Eh ben, personne n'est dupe. Vous êtes avant tout un animateur télé multimillionnaire poly-infecté, comme tous ses petits collègues, Laurent Romeshko, David Pujadas, Tex, Stéphane Bern, Arlette Chabot et j'en passe. Sniffer de coke, sniffer de poppers, sniffer de lingerie fine, sniffer, qui a crevé son sillon médiatique à grands coups de narine. Et regardez-vous, jamais été aussi fit, jamais eu le teint aussi frais, jamais eu la pupille aussi dilatée. Quand je pense à tous ces cons qui prennent encore de la vitamine C sous forme de jus de concombre, céleri, betterave, ça me déprime. Non, soyons excessifs dans nos consommations, comme notre soif de pouvoir, pas de prisonnier, la gentillesse, le partage, l'empathie, la compassion, le vivre ensemble, c'est les 5 fruits et légumes par jour de la vie professionnelle. Tout le monde en parle, mais personne n'y croit. Voilà, monsieur Guy, une fois encore, je suis désolé, mais force est de constater que vous avez dit
n'importe quoi.
Merci. Sur France Inter.
Honneur à notre élu donc ce soir, à partir de ce soir au Théâtre du Rond-Point, cette pièce de Marie Ndiaye avec Isabelle Carré et Patrick Chesnais, et ce jusqu'au 26 mars, et ensuite il y aura en effet la tournée, et puis Isabelle fera des projets qu'elle viendra peut-être nous révéler à ce micro plus
avec
tard,
joie.
Elle n'a pas envie d'en parler maintenant. Des excuses à présenter, Daniel.
Oh, désolé déjà pour Patrick Chesnais, hein, qui on a répété sur ce plateau, on a rappelé une jeunesse et surtout une éducation douloureuse. La quatrième, quand on a 28 ans, c'est forcément des trucs qu'on voulait faire oublier à tout le monde. Désolé pour Isabelle Carré qui a découvert ce matin que Patrick n'avait qu'une vision érotique de la pièce. Une pièce qu'il a lue comme un vague porno de chez Jackie et Michel. Courage Isabelle, hein, je serai toujours à vos côtés de toute façon. Et désolé évidemment pour tous nos élus qui se sentent visés par la pièce d'Isabelle et de Patrick aujourd'hui. Vous ne sentez pas visés les gars? Enfin si, au final, sentez-vous visés, vous êtes bien dans le collimateur, en fait.
Ce qui ne va pas arranger l'inquiétude d'Isabelle Carré ce soir dans les loges du Théâtre du Rond-Point, c'est cette phrase déclarée tout à l'heure par Patrick Chesnais.
Mais elle est très bonne pour les langues.
Elle est très bonne pour les langues.
Mais merci Patrick d'être venu prêter votre...
Je suis très mal tourné. Alors donc à propos de Moby, qu'est-ce qu'on fait?
On va vous faire un CD qu'on va vous apporter. Allez, envoie le Moby, ça lui fait plaisir. Voilà. C'était l'une des chansons choisies par Patrick et que l'on n'a pas eu le temps de passer tout à l'heure. Merci mille fois, en tout cas.
Merci.
Bon, et comme on dit, merde pour ce soir. Demain, nous recevons Anne-Marie Vin et Mehdi Sadoun pour Babyphone, un film qui sortira sur les écrans la semaine prochaine. Et ce sont les carnets de campagne maintenant de Philippe Bertrand. Bonjour.
Oui,
bonjour
Philippe. Salut les amis.
La blague, Philippe.
Non, attends, calme tout ce qui.
C'est Pierre-Emmanuel,
s'il te plaît. Non, mais contrairement à ce que j'avais cru comprendre, Patrick était censé être en mode avion. Vu ce qu'il a dit, il est plutôt sur vibreur. Quand même.
Oh, joli, ouais.
Et je ne sais pas si vous avez relevé la chose aussi, ça m'a marqué, c'est quand même cette figure géométrique, Isabelle Carré au rond-point.
Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que j'adore aller là-bas.
Bah oui, c'est bien.
Double blague aujourd'hui, Philippe. Ouais. On annonce une belle émission.
Et c'est gratuit. Service public, c'est gratuit.
Bon, puis à partir de maintenant, c'est votre émission.
Ouais. Salut les amis.
Merci.
Ciao. France Interceller.